Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Islam de France, l'an 1. Il est temps d'entrer dans le 21e siècle. C'est le titre du livre de Mohamed Bajrafil que j'aurai le plaisir de recevoir et avec lequel j'aurai le plaisir de m'entretenir dans un instant dans Culture d'Islam.
Wahidullah.
Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim bi jami'i shu'uni fi dhuhuri wal butuni ala man shaqqati al asrari al kamilati fi dhati al aliyati dhuhuran wa falaqati al anwar al muntawiyati fi sama'i sifati saniyati buduran wa fi irtaqati al haqa'iq minhu ilayhi wa tanazzalat qulu adam bi fi alayhi fa ajaza kullu min al khalaiq fa huwa ma udhiya min al sirri fi wa law tadalat al fuhum wa kullu al ajzi yakfi fa dhalika sirr al mawsul lam yadriku min al sabiq fi wujudi wa la yablughu laiq ala sawabiq shuhudi fa adhim bihi min nabi riyad al mulk wa nabuj zahir jamani zahir al mulk.
Nous sommes avec les soufis des Comores, c'est l'heure de la wazifa, c'est-à-dire de l'oraison collective. Il faut imaginer que sur un signe du cheikh, c'est-à-dire sur un signe du maître, les adeptes vont, main dans la main, s'asseoir en position de prière, les yeux fermés, et entamer ces oraisons, le visage se balançant de la gauche vers la droite. Mohamed Bajrafil, bonjour.
Bonjour.
J'ai choisi ces oraisons parce que vous êtes vous-même originaire des Comores, hein, et je crois que ces choses soufies comoriennes ne vous sont pas totalement étrangères.
Pas du tout, d'autant moins que je suis né dedans.
Oui. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme Obélix dans la marmite de potions magiques.
Oui, sauf que c'est une potion magique plutôt spirituelle.
Donc vraiment magique.
Oui, donc vraiment magique, oui. Et je suis d'autant plus tombé dedans que l'Azawiya de cette confrérie, parce que c'est une confrérie dite Charzli al-Yashrutriya.
Ouh là là, ça fait beaucoup d'un coup. Alors, oui. L'Azawiya, c'est-à-dire le lieu dans lequel se réunissent les soufis, traditionnellement.
Servant à la fois de lieu de prière et de prière au sens raka'at, ce qu'on appelle unité de prière que l'on fait tous les jours, mais également au sens de prière comme la wazifa, c'est-à-dire cette oraison qui, par jour, se lit deux fois.
Voilà, donc ces oraisons collectives qui sont essentiellement des prières de louange sur le prophète,
oui,
des invocations.
En l'occurrence, celle-là, oui, des invocations qui sont faites à la fois le soir, après la prière, la dernière prière de Aïcha, celle de la nuit, et le matin, avant de commencer la journée.
Voilà, donc la Zaouya, qui est à la fois le lieu du rite exotérique, oui, hein, du rite commun, et puis du rite initiatique, qui est soufi.
Initiatique. Et cette Zaouya aussi a été le lieu dans lequel j'ai été formé en théologie, et que j'ai découvert par la suite que c'était ma grand-mère qui en avait fait don. Ah. Je ne savais pas. Donc je suis né dedans, vraiment.
Donc
pour
vous êtes né dedans. Alors on en parlera un peu plus tout à l'heure. C'est la tariqa
Charzliya,
donc de Aboul Hassan al-Shadhili, qui était un très grand maître soufi, un des plus grands fondateurs d'ordre. Du soufisme, on est, alors pour le situer, on est, il meurt au milieu du XIIIe siècle. Exactement. Tiens, d'ailleurs, il meurt une année très très néfaste pour la civilisation islamique, puisque c'est l'année de la fameuse destruction de Bagdad,
par les Mongols.
Les hordes qui venaient de l'Est. Exactement. Et à partir de là, la civilisation va être touchée en son centre, à partir de cet épicentre.
Exactement.
C'est un séisme pour la civilisation. Je vous reçois aujourd'hui, Mohamed Bajrafil, il faut peut-être que je vous présente d'abord. Vous êtes né en 1978, c'est bien ça ?
Oui. Hein ?
Vous êtes né aux Comores, vous êtes docteur en linguistique et vous êtes chargé de cours à l'université Paris 12. Et un de vos moindres mérites n'est pas d'être imam à Ivry-sur-Seine. Vous avez cette fonction donc régulière, instituée d'imam à Ivry-sur-Seine.
Oui, depuis maintenant 8 ans à peu près.
Depuis 8 ans.
Mais j'étais imam ailleurs, j'ai parcouru des mosquées où je reste encore imam si j'y vais.
Oui.
Vigneux-sur-Seine et d'autres encore d'Île-de-France et d'ailleurs.
D'accord. Donc vous êtes toujours un jeune imam.
Oui.
Et un jeune imam qui, en l'occurrence, s'interroge sur l'islam de France. On préfère souvent dire l'islam de France plutôt que de l'islam en France.
En France. Hein. Je m'étais amusé à faire une sorte de glose du sens de deux. J'étais arrivé à deux pages, à quatre pages, et je me suis dit ça sert à rien, parce que justement pour expliquer que deux ne veut pas forcément dire travestissement, parce que il y a, comment dire, une espèce d'ambivalence sémantique qui fait que d'un côté, on a des gens qui pensent que quand on dit islam de France et qu'on va en travestir le sens, et de l'autre, on a des gens qui pensent que quand on dit islam de France, c'est l'invasion.
On est coincé des deux côtés, en fait.
Exactement.
Hein, on est pris dans un dilemme.
Ouais, exactement.
Parce que l'islam de France est suspecté par certains de n'être pas tout à fait un véritable islam, parce que, à force d'adaptation à la société et à la culture française, il y perdrait son essence et sa vraie couleur. Mais si on dit islam en France, on nous reproche, ou on se voit reprocher, le fait que, eh bien, on prétend, ou on voudrait importer quelque chose qui ne serait.
Islamiser la France.
Islamiser la France, quelque chose qui ne serait pas d'ici, etc.
Mais et c'est vous, deux extrêmes, de toute façon.
Oui. Alors, vous choisissez quoi entre islam en France et islam de France, et comment est-ce que vous justifiez ou légitimez votre choix pour telle ou telle expression ?
Alors moi, je choisis plutôt l'islam de France au sens suivant, c'est-à-dire que l'islam est, comme le restant des religions qui sont présentes sur le territoire national, une religion d'ici. C'est-à-dire que ce n'est plus la religion, comme malheureusement certaines extrêmes veulent nous faire dire, ce n'est plus une religion importée, ce n'est plus la religion des immigrés, mais c'est une religion qui appartient à des concitoyens qui sont pas moins importants que ceux des autres confessions. C'est plutôt ce sens-là que je choisis, et non ni le sens d'invasion, ni le sens de travestissement auquel certains bons esprits pourraient...
Voilà, est-ce qu'il pourrait vous imputer ? Alors, c'est le titre même d'ailleurs de votre livre, hein, Islam de France l'an 1, c'est un peu ambitieux comme titre. Hein. Parce que, je vais vous dire pourquoi, et d'ailleurs, c'est ce que vous interrogez vous-même dès l'avant-propos.
Exactement.
Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui commence.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui commence, parce qu'il y a déjà un drame qui a commencé. Vous savez, c'est Cioran qui disait que l'homme tire par définition la plupart de ses réussites de ses échecs. Ce qui s'est passé en janvier.
Oui, et puis Hölderlin disait déjà que là où est le péril, croit aussi ce qui sauve.
Exactement. Et au fond, l'idée, c'est de nous dire que ce qui s'est passé en janvier constitue pour moi un tournant. Un tournant pour plusieurs raisons. D'abord parce que depuis, et c'est de l'avis de tout le monde, la libération, les Français ne se sont jamais aussi massivement réunis que ils l'ont fait en janvier. Et pour avoir participé à cette manifestation, qui a eu lieu le 11 janvier 2015, donc de cette année.
Donc petit message subliminal que vous envoyez. Oui. Vous avez participé à cette manifestation, donc vous pensiez qu'il était de votre responsabilité en tant que citoyen français de participer à cette manifestation.
En tant que concitoyen, parce que je me considère d'abord comme français d'esprit avant de l'être par les papiers, parce qu'on en voit qui
Mais la France est un esprit. Et donc, alors vous dites, le titre et le sous-titre de ce livre, alors je les rappelle, Islam de France l'an 1, c'est aux éditions Plein Jour, hein, ça c'est paru cette année. Islam de France l'an 1, il est temps d'entrer dans le 21e siècle. Et dites-vous, dès l'avant-propos, le titre et le sous-titre de ce livre peuvent susciter des interrogations, voire de la méfiance. Non seulement j'en suis conscient, mais cela me semble normal. Pourquoi susciter de la méfiance ? Parce que, dites-vous, depuis les attentats de janvier 2015, tout le monde a les nerfs à vif.
Oui.
D'un côté, la composante musulmane de la France, qui, on peut le comprendre, en a assez qu'on l'assimile directement ou indirectement aux crimes commis au nom de la religion. Et dites-vous, alors est-ce que c'est une invitation à l'autocritique, cette minorité ou cette composante prend un peu trop à cœur tout sujet lui ayant trait, où elle voit presque systématiquement une stigmatisation hein, de plus. Et puis, poursuivez-vous, quant aux autres composantes de la société française, elles s'interrogent sur l'islam, sa relation avec la République, sa compatibilité avec la démocratie, inquiétudes légitimes elles aussi, face à la montée d'actes dont l'inhumanité réduite à cuia, tout orateur, et fait avoir des cheveux blancs à tout le monde, même aux chauves, dites-vous. J'ai beaucoup apprécié ce petit trait d'esprit à la fin.
Oui, je pense que nous vivons une période charnière. Hein. Quand on regarde la façon dont les événements dans le monde se déroulent, la vitesse à laquelle ces derniers se déroulent, personnellement m'interroge, m'interpelle, je pense, toute personne de bonne foi qui cherche à comprendre et qui cherche surtout, après avoir compris, à trouver une solution. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la communauté musulmane de France, française, en a marre qu'on l'assimile directement ou indirectement, parce qu'il y a, il y a des gestes qui, en linguistique, on a ce qu'on appelle des gestes sémantiques, il y a des gestes qui parlent d'eux-mêmes. Et on peut comprendre qu'à un moment donné, on en est, des gens en, ont marre de faire de
ce faire montrer du doigt. Et puis, pardon, mais il y a ceux qui en ont marre qu'elle en ait marre.
Oui, hein, il y a également ceux qui en ont marre, qui oui, en
c'est
effet.
C'est-à-dire qu'il appelle, comme
oui.
vous le faites d'ailleurs dans, vous-même dans le livre, à prendre aussi sa responsabilité
et
son destin en main. Oui. L'an 1, hein, vraiment l'idée de l'an 1, d'une auto-affirmation de soi qui commence enfin, qui commencerait enfin.
Oui. Le défi du livre a été de montrer que le bateau est déjà parti. Il a déjà largué les amarres, nous sommes de toute façon ensemble. Nous ne vivons plus les uns à côté des autres, ai-je l'habitude de dire, mais plutôt les uns dans les autres. Et à partir de là, il faut que
en,
nous...
En tout bien, tout honneur.
En tout bien, en tout honneur, bien entendu. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je suis votre frère, ou votre beau-frère, ou votre je ne sais quoi. Enfin, il y a une société qui est déjà partie, et j'ai envie de dire, la France est de ce point de vue-là un modèle universel, dans le sens où il fut un temps où on avait des mondes chrétiens, des mondes musulmans, etc. Aujourd'hui, je regardais dernièrement une étude dont je ne me souviens pas exactement l'origine, qui disait que près de la moitié de la population musulmane vit dans des pays qui ne sont pas à majorité musulmane. Et c'est quand même quelque chose de très fort. C'est-à-dire on a 1,5 milliard, dont près de 600 millions vivent dans des pays qui ne sont pas à majorité musulmane. Il suffit de regarder l'Inde, où il y a à peu près près de 300 millions de personnes de confession musulmane dans plus d'un milliard d'habitants qui sont, eux, de confession autre que musulmane.
Alors, dans ce contexte, qui est le contexte d'une interrogation de tous au sujet de la place que l'islam peut et doit prendre en France aujourd'hui, parce qu'il est une composante de fait de notre société, et peut-on l'espérer aujourd'hui et demain de notre culture, eh bien, vous sentez un devoir d'intervenir, et c'est là-dessus que je voudrais commencer par vous interroger. Vous dites qu'il s'agit là pour vous, je vous cite, d'un devoir auquel vous ne pouviez pas vous dérober pour un certain nombre de raisons, que vous allez nous expliquer, parce que, dites-vous un petit peu plus loin, si je ne m'exprime pas, il y a des silences complices. Hein, il y a des silences complices, donc des silences complices de quoi ? Et je précise ma question, en quel sens est-ce qu'il vous est apparu comme un devoir d'intervenir dans ce débat, peut-être à partir de votre fonction d'imam ?
À la fois à partir de ma fonction d'imam et aussi de ma fonction de, ou de mon titre de citoyen de ce pays.
Les deux.
Les deux. Je pense qu'il est du devoir de tout un chacun de faire en sorte que le bateau commun dans lequel nous avons tous décidé d'embarquer, eh bien, il est du devoir de tout un chacun de faire en sorte que celui-ci arrive à bon port. Et il y a un propos du prophète, à partir duquel j'ai décidé de, comment dire, d'écrire ce livre, qui a dit que, d'ailleurs on l'appelle le hadith, le propos du prophète, dit du bateau, hadith ou safina en arabe. Et qu'il dit que, imaginez-vous un groupe de personnes qui sont dans un bateau, et qui sont réparties en deux groupes. Il y a un groupe qui se trouve au niveau de la proue, et un autre qui se trouve dans la cale. Et si celui qui est dans la cale estime trop loin l'endroit dans lequel se trouve l'eau, c'est-à-dire en surface, et décide de faire un trou, d'ébrécher la cale pour ne pas avoir à aller à se déplacer là-haut, et que le bateau prend l'eau, eh bien, ceux qui sont en surface ne seraient pas moins responsables si le bateau fait naufrage que ceux qui auraient fait ce trou. Donc je me dis, aujourd'hui, le pays est menacé par ceux qui constituent les extrêmes d'un côté comme de l'autre, qui appellent à un choc de civilisation, qui appellent à un choc de culture, là où moi, au contraire, je vois eh bien, les leviers, ou plutôt les signes, la pépinière d'un nouvel essor que pourrait prendre ce pays. Donc je me dis, tiens, si je ne parle pas, eh bien, j'aurais pas été moins responsable de cette débandade que ceux qui appellent à ce que justement ce choc ait lieu.
Alors, si je file la métaphore dont vous trouvez l'origine dans un hadith du prophète Mohammed, ça veut dire qu'il y a un bon port quelque part. Ça veut dire qu'il y a une destination. Hein. Oui. Alors, cette destination, vous l'indiquez un peu dans votre livre, puisque vous appelez, dites-vous, à ce but qui est, ou qui serait, et comment ne pas y souscrire, la réconciliation des consciences et des cœurs. Vous insistez
beaucoup là-dessus.
Voilà. Mais elle est constituée de quoi, cette réconciliation ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous imaginez, plus concrètement, ce bon port vers lequel nous devrions essayer, ou nous devrions avoir la sagesse et la tolérance de naviguer ensemble pour ne pas avoir l'impression, comme on l'a actuellement, d'être non pas dans le même bateau, mais dans la même galère.
Eh bien, d'abord en apprenant à se connaître. Malheureusement, nous vivons dans des mondes où Nous sommes les uns dans les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne veut pas admettre cette réalité. Je n'ai pas envie de faire votre connaissance. Je préfère garder de vous, eh bien, des clichés, des stéréotypes. On m'a dit que les ceci sont comme ceci, les cela seraient comme cela. Ça, c'est le premier point. Et au fond, c'est ce à quoi appelle le livre. Parce que une des choses dont j'ai pu me rendre compte tout le long de ma vie en France, parce que j'y suis venu pour mes études supérieures en lettres et en linguistique, c'est justement le fait que j'en parle d'ailleurs à un moment donné dans le livre. On se connaît pas suffisamment. Quand j'entends un ministre ou un chef d'un parti quelconque dire des sornettes mais qui n'ont ni queue ni tête à l'endroit des musulmans, je me dis quand même, on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas avoir le B.A. parce que moi j'appelle le SMIC. Ça, c'est peut-être une expression qui a dû vous faire rire, mais c'est pour moi le savoir minimum indispensable à une conversation.
Ah, c'est pas mal ça. Vous pouvez répéter le SMIC, le savoir minimum
indispensable à la conversation. Si je n'ai pas de quoi pouvoir échanger avec vous, c'est qu'il y a déjà un problème. Parce que je pars du constat que celui qui frappe, c'est parce qu'il manque d'arguments. Or, pour manquer d'arguments, il faut, bien entendu, ne pas avoir cherché au préalable à converser avec la personne. Parce qu'à chaque fois que l'on parle, moi je viens d'une société, en l'occurrence la société comorienne, où il y a des solutions à tout problème. On peut tout résoudre par le consensus. On arrive toujours à s'asseoir et à trouver une solution au problème.
Oui, alors peut-être que vous pourriez le préciser, le consensus qui a ses lettres de noblesse tradition musulmane.
Aussi. Hein, ouais.
C'est-à-dire que c'est le fameux ijma.
Ijma, hein, la notion de shura également.
Et de shura, c'est-à-dire de consultation.
Exactement. Hein.
On se réunit et on discute, ce qui est une forme, on pourrait presque ancienne, de démocratie.
De démocratie, une sorte de symposium dans lequel les gens se trouvent. Et
Qui participe justement, par exemple, à l'échelle d'un village ou à l'échelle d'une commune qui participe à la shura
Toutes les strates de la société, en commençant par les femmes, les jeunes, les personnes âgées, etc. Enfin, tout le monde apporte. C'est vraiment une auberge espagnole dans laquelle chacun apporte sa pierre pour justement le bon fonctionnement de la société. Donc je pense que c'est le premier point à partir duquel, si nous voulons vraiment que nous arrivions à bon port, si nous voulons que ce bateau commun dans lequel nous avons décidé d'embarquer arrive à bon port, il faut vraiment que nous apprenions à mettre en œuvre.
Voilà, à nous connaître pour nous reconnaître.
Pour nous reconnaître.
Hein, parce que la connaissance est un moyen avec comme finalité cette reconnaissance réciproque.
Exactement.
Cette reconnaissance mutuelle. Et pour ça, il y a du travail des deux côtés.
Oui.
Et vous dites, il y a du travail aussi. Moi, personnellement, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre.
Oui.
Vous appelez les musulmans à leur responsabilité. Voilà ce que vous dites, par exemple, au sujet d'un certain nombre de préjugés courants, communs, que vous trouvez, que vous entendez du côté de la communauté musulmane. Ils ne sont pas généralisés, mais qui sont courants. Voilà, je vous lis, on est à la page 46 de votre livre. La vérité, comme je le laisse entendre ici, c'est que la France, aujourd'hui, réalise beaucoup mieux la charia, c'est-à-dire la loi islamique. C'est une idée très étonnante, il va falloir que vous nous expliquiez. C'est que la France, aujourd'hui, réalise beaucoup mieux la charia que bien des pays musulmans. Qui serait malhonnête au point de ne pas reconnaître que l'enfant naissant en France a plus de chances de parvenir à l'harmonie qui est sa finalité? Et c'est intéressant parce que c'est un peu la définition que vous donnez de la charia, justement, c'est-à-dire une vie en harmonie, une vie en cohérence, que celui qui a la malchance de naître dans un pays aux conditions de vie épouvantables, comme il y en a tant, y compris, mais pas seulement, parmi les pays musulmans. Et vous dites, en réalité, cette conscience de la chance d'être en France, elle n'est pas assez partagée, et voilà ce que vous dites à la page suivante à cet égard. Ceux parmi les musulmans de France qui ne voient pas la chance qu'ils ont de vivre ici sont des gens immobiles, figés dans des histoires anciennes. Autrefois, effectivement, la France était un pays de croisés, etc., etc. Alors, eh bien, on continue de dire que la France est mauvaise et qu'elle le restera tant qu'elle ne sera pas devenue musulmane, tant que le président ne s'appellera plus François mais Abdallah. C'est un syllogisme absurde, dites-vous. Ouais. Tout, entre-temps, a changé et il se comporte comme si ce n'était pas le cas, comme si tout se reproduisait éternellement à l'identique. Donc là, vous visez clairement quelque chose dont on sait effectivement que c'est une réalité sociologique, c'est-à-dire un ressentiment contre la société française, contre les valeurs françaises, contre les institutions françaises, qui n'a pas tellement lieu d'être.
Qui n'a pas tellement lieu d'être et que je dénonce au passage, et qui de mon point de vue naît, je dirais encore une fois, de cette ignorance que moi j'appelle la double ignorance, qu'on appelle en arabe « jahl al-murakkab », une ignorance doublée. Parce qu'il y a deux ignorances. Il y a l'ignorance que l'on pourrait qualifier de normale. Chacun de nous est ignorant de quelque chose. J'apprends de vous comme vous apprendrez de moi. Mais il y a une autre ignorance qui, elle, est dangereuse et qui, elle, est à combattre plus que la première, qui consiste à prendre cette bouteille pour autre chose que ce qu'elle n'est pas. Et au fond, c'est ce qui se passe. Vous avez parlé tout à l'heure de charia. Moi, quand je faisais mes études de théologie et que, par exemple, on m'a appris la définition de la charia donnée par Al-Aziz ibn Abdussalam, qui est un des grands maîtres, justement, de ce qu'on appelle la science des finalités, qu'on appelle maqas de charia, qui dit, je cite à la page 9 de son livre appelé Al-Qawa'id, que shari'atu maslahatun kulluha. La charia, elle est intérêt dans son ensemble. Et qu'elle se résume, dit-il, wa kulluha dar'u mafsada wa jalbu maslaha. Et que entièrement, elle est le fait de s'attirer des intérêts et s'éloigner ou est éloignée des inconvénients. Quand je lis Ibn al-Qayyim, qui dit aussi la même chose.
Ah, ouais, alors attendez, commentez-nous ça. Oui. La charia, c'est-à-dire la loi, c'est l'art ou la vertu
de repousser tout désagrément loin de l'homme et de lui attirer dans cette vie eh bien, toute chose pouvant arranger celle-ci. Et
donc c'est une intelligence ou un discernement du positionnement dans l'action et dans l'engagement, un discernement de ce qui nous est réellement utile.
De ce qui nous est réellement utile.
Et de ce qui peut nous être nuisible.
Et de ce qui peut nous être nuisible.
Mais là, on est très loin de la définition courante de la charia telle qu'on la trouve dans la sous-culture religieuse.
Comme vous dites, c'est une sous-culture, mais la culture religieuse en tant que telle, et eux sont partis d'un verset du Coran, qui est dans le premier verset de Sourate Taha, le chapitre 20, où Dieu dit « Taha, ô toi l'homme », comme le dit Al-Firouz Abadi dans son exégèse, « Ma anzalna alayka al-Qur'an al-Tashqa »« Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour que tu souffres ». Et ce verset, je l'ai mis dans le livre pour dire « Attention, il faut qu'à chaque fois que nous agissions, nous ayons en tête » l'idée que cette révélation ne nous a pas été faite pour nous rendre la vie invivable.
Donc c'est très spinoziste en fait le Coran, c'est-à-dire c'est, cherche la joie, la joie c'est-à-dire ce qui t'est réellement profitable et qui à partir de là pour toi est une source de joie profonde, et évite ce qui te fait souffrir et dont la souffrance est le critère que tu n'en as pas besoin.
Exactement.
Voilà. Alors comment est-ce que par rapport à ça, vous essayez en tant qu'imam de convaincre, si c'est le but en tout cas, vos paroissiens ou vos ouailles, que le fait de suivre la chaleur, la loi, c'est pas simplement appuyer sur le bouton du halal ou du haram. Ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est plus subtil que ça en réalité.
C'est plus subtil,
beaucoup
que
plus
cela,
subtil que ça.
Et c'est pour cette raison d'ailleurs que à chaque fois, c'est une règle aussi très connue en principologie, qu'il y a ce qu'on appelle haqqullah, le droit de Dieu, ou haqqul ibad, et le droit des serviteurs. À chaque fois que ces deux droits se trouvent en opposition et que le droit des serviteurs est menacé, la charia, justement, étant donné qu'elle est là pour servir l'homme et non pour l'assujettir, eh bien, la loi de Dieu s'enlève, s'annule au profit de celle de l'homme. Par exemple, il est interdit en islam, c'est connu comme le loup blanc, de manger de la viande porcine. Sauf que si tu te retrouves dans le désert et que tu n'as que cette viande pour manger, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
Cela étant dit, il est extrêmement improbable qu'au milieu du désert, on trouve de la viande porcine.
Oui, mais bien entendu. Mais supposons, d'ailleurs, les hanafites, l'école hanafite est connue pour justement se lancer dans des élucubrations
pareilles.
Voilà,
admettons que nous ayons trouvé un cochon du
désert.
Voilà,
exactement. Ou même dans la forêt, que nous n'avons rien d'autre à manger que cela. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il devient obligatoire d'en consommer la viande. Pourquoi? Eh bien, justement, parce que la règle veut que quand le droit de Dieu, celui des serviteurs s'oppose, que celui des serviteurs l'emporte sur celui de Dieu.
Alors là, il y a justement un grand thème relatif à l'acclimatation et de l'islam de France. C'est le thème du partage entre les droits de Dieu et les droits de l'homme.
Oui.
Et évidemment, quand on tire ce fil, tout ce qui vient derrière, c'est la question de la liberté de conscience, de l'être humain en face de Dieu, et la question de la démocratie également. Alors, comment est-ce qu'on accorde, de votre point de vue, la démocratie, c'est-à-dire la proclamation du droit des hommes, avec la possibilité pour le musulman de continuer à considérer qu'il y a des droits de Dieu? Qu'est-ce qui l'emporte ou comment est-ce qu'on articule les deux?
De manière très simple, si on part avec un constat qui est que, comme l'a dit Ali ibn Abi Talib lorsque les Khawarij l'ont interpellé,
Attendez, précisez-nous donc.
Les Khawarij, c'est un mouvement rebelle, en quelque
voilà,
sorte.
Donc on est au temps du prophète.
On est au temps, non, plutôt après le prophète, au temps du quatrième calife, Ali ibn Abi Talib. Le prophète était déjà mort, mais au temps de Ali ibn Abi Talib, les Khawarij, c'est des gens qui ont des rebelles, en quelque sorte, d'ailleurs l'expression à utiliser, des rebelles politiques, mais qui ensuite vont devenir des gens très sanglants et sanguinaires, qui vont perpétrer des choses qui nous font d'ailleurs aujourd'hui penser à ce qui se passe un peu dans les groupes qui sévissent au nom prétendu de l'islam par-delà le monde. Ils lui disent, non, on veut que nous soyons jugés par la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il leur répond ? Par quoi il leur répond ? Il leur dit, écoutez, le Coran qui se trouve entre deux couvertures ne parle pas. Il parle parce que nous le faisons parler. Et au fond, la parole de Dieu est, comme je le dis dans le livre, elle est immense, trop immense pour que l'homme, les petits cerveaux qui sont les nôtres, puissent en couvrir la totalité. Ce qui veut dire à partir de là que quand vous et moi, nous allons à la rencontre de celui-ci, nous devons y aller avec la modestie qui consiste à nous dire, de toute façon, quoi que je dise de cette parole, c'est pas ce que Dieu a voulu. J'ai essayé, mais je n'ai pas le droit de dire que c'est vraiment ce que Dieu a voulu. Et à partir de là, vous avez sans doute dû le voir, pas dans le livre, mais ailleurs, pour avoir lu des manuels de théologie, à la fin, on met toujours « Allahu a'lam ».
Seul Dieu est savant. Seul le sait.
Exactement. Et à partir de là, le fiqh, ce qu'on appelle la jurisprudence, etc., eh bien, encore une fois, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la compréhension de celle-ci. Et qui dit compréhension, dit différence entre le texte et ce qu'on en dit. Or, ce qui s'est passé depuis le 4e siècle, pour être précis, et je le dis également dans le livre, c'est qu'on en est venu à sanctifier les propos de ceux qu'on appelle les pieux prédécesseurs, en prenant ces derniers pour des vérités révélées, alors que justement, le Coran nous dit de ne jamais prendre autre chose pour révéler, pour sacrer, que la parole de Dieu et ce que Dieu a révélé aux prophètes. Et là, nous avons vraiment, j'ai parlé de glaciation à un moment donné, parce que quand on parle des droits de l'homme finalement, droits de l'homme, etc. Moi, je dis de manière peut-être un peu osée pour certains que le fiqh, c'est encore une fois, c'est pas une parole révélée.
Donc le fiqh, c'est le droit
musulman. Le droit musulman.
Hein, fabriqué par les fuqaha.
Exactement.
On dit souvent les juristes théologiens.
Oui. Alors j'utiliserai pas le mot fabriqué, mais j'utiliserai plutôt né de leur effort de compréhension de la parole révélée.
Oui, fabriqué au sens produit.
Produit.
Élaboré.
Alors, je préférerais élaborer, plutôt élaborer. Je préférerais plutôt élaborer, parce que fabriquer veut dire qu'on a créé quelque chose de toute pièce, alors qu'il s'inspire. C'est une compréhension humaine d'inspiration divine. En tout cas, qui se veut comme tel. Et si on comprend les choses de cette façon, eh bien, on ne peut pas, de mon point de vue, s'interdire la possibilité de lire les textes de nouveau à l'aune des réalités sociales, économiques, philosophiques, sociétales qui sont les nôtres aujourd'hui.
Alors, comment est-ce que ça, parce que la question plus précise, c'est comment est-ce que tout ça est compatible avec la démocratie, c'est-à-dire avec un système politique, parce que c'est quand même ça le principe de la démocratie, qui est fait par des hommes pour des hommes.
Oui.
Jusque-là, on peut se dire, c'est exactement ce dont vous parlez,
oui.
Simplement, sans aucune référence à une parole transcendante. C'est-à-dire que le système dont vous parlez est un système qui est fait par des hommes pour des hommes,
oui.
Mais à partir de l'autorité antérieure d'un texte et d'une révélation. Donc comment est-ce qu'on accorde une vision du monde dans laquelle il y a cette antériorité d'une révélation, c'est-à-dire d'une parole de Dieu, à un système, le système démocratique, dans lequel on ne reconnaît pas d'antériorité à la moindre parole transcendante, d'où qu'elle vienne.
Alors, c'est une très bonne question.
C'est difficile.
Pas tant que ça, si on connaît l'essence de l'islam. Parce que le prophète, justement, nous a appris que « al-hikmatu dallatu al-mu'min », le dit-il en arabe. La sagesse, c'est quelque chose de perdu pour le croyant. Où il la trouve, il s'en empare. Donc l'idée ici, encore une fois, de nous faire comprendre que c'est pas, et c'est ce que vous avez lu tout à l'heure quand vous avez dit que je disais que certains attendent que le président s'appelle Abdallah pour sentir que la France est devenue musulmane. Or, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'à partir des principes coraniques, une étude qui a été faite par des universitaires américains a montré que les pays qui sont le plus en phase avec ces principes-ci sont essentiellement des pays occidentaux. Et j'en veux pour preuve le fait que le premier pays musulman qui arrive, je pense que cette étude, vous avez dû la voir, qui arrive en premier et se retrouve à quelle place ? Essayez de deviner, à la 33e place, la Malaisie. L'Arabie saoudite se trouve autour de la 100e place. Et eux sont partis de... Non,
je ne vous m'entraînerai pas sur ce terrain-là. Je ne dirai pas aujourd'hui du mal de l'Arabie saoudite.
Non, parce qu'on leur a vendu des rafales. Mais
non, pas du tout, mais parce que il faut bien faire une pause.
Oui, enfin moi, ça par contre, c'est un des points sur lesquels on reviendra. Moi, je n'ai rien contre l'Arabie saoudite en tant que pays, mais il faut aussi que nous sachions être, en phase avec les principes que nous souhaitons... appliquer partout, même si on ne vend pas d'avions.
Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a une essence de l'islam.
Oui.
À mon sens, ça pose un premier problème.
Oui.
C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'essence de l'islam ?
L'essence.
Oui. C'est difficile de déterminer l'essence de l'islam. Bon, attendez, premier problème. Donc, première question. Comment on fait pour déterminer l'essence de l'islam ? Deuxième question, vous dites, à partir des principes coraniques.
Oui.
On peut déduire quelque chose comme, eh bien, tout simplement, la liberté de conscience, les droits de l'homme, la démocratie, etc.
Oui.
Alors, en réalité, ce que vous évoquez, et qui est, c'est vraiment très intéressant, c'est l'idée qu'il y a une convergence de fond.
Oui.
Hein, une convergence de fond entre ce que la modernité a produit de son côté, d'une façon qui est profane, et avec ce que les philosophes des Lumières appelaient simplement les lumières naturelles de l'être humain, sa conscience, sa raison, et puis ce qui viendrait de la révélation. Hein. C'est pour cette convergence que vous plaidez.
Je plaide pour cela.
Mais vous comprenez le danger, vous comprenez le danger que, eh bien, dans un certain nombre d'esprits croyants, il y ait une autorité supérieure des textes sacrés, c'est-à-dire supérieurs à ce que les hommes peuvent élaborer, dès lors que, eh bien, comme vous l'avez dit, c'est à partir des principes coraniques que les principes de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté de conscience vont trouver leur légitimité.
Encore une fois, si on connaît l'historicité des textes, la question ne devrait pas se poser. J'en veux pour preuve une histoire que le Coran a traitée d'ailleurs, qui a été à l'origine de la révélation d'un chapitre qui s'appelle Al-Mujadala, celle qui est venue disputer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une notion. Quand le prophète est arrivé à Médine, il y avait une loi chez les Arabes, d'après laquelle si on confondait sa femme avec le dos de sa mère, si on comparait sa femme au dos de sa maman, eh bien cela était synonyme de divorce définitif. On appelle ça dhihara. En gros, si on dit à une femme « tu ressembles au dos de ma maman », c'est fini.
Oh oui, ça, c'est un casus belli, là.
Oui, mais casus belli, mais qu'il y avait...
En même temps, c'est pas très gentil pour la maman.
Bien entendu, mais bon. Mais c'était aussi... Si, quoique, parce que ça veut dire que c'est sacré. Et en gros, je ne peux pas toucher au dos de maman... Je ne peux pas toucher non plus au dos d'une personne.
Mais alors là, ce n'est pas très gentil pour l'épouse.
Ce n'est pas très gentil pour l'épouse. Et en l'occurrence, ça ne l'était pas. Et pour les Arabes, d'antan, c'était un divorce définitif.
D'accord.
Une femme est venue qui s'appelait Khawla, est venue voir le prophète et lui a dit « Voilà, j'ai un mari qui est aveugle, mais qui vient d'une famille aisée, avec qui j'ai eu deux enfants. Il est par contre non-voyant. Il m'a comparé au dos de sa maman, ce qui veut dire que c'est fini. » Sauf que si il me laisse toute seule avec ses deux enfants, je n'ai pas les moyens de m'en occuper. Si en revanche je les lui laisse, étant non-voyant, il ne pourra pas non plus leur donner l'éducation qu'il faudrait. Le prophète lui a dit quoi ? Il a rendu justice. À partir de quoi ? À partir de ce à quoi les Arabes étaient habitués. Donc là, on voit que c'est une loi comment ? C'est pas une loi révélée, en l'occurrence. Mmh. C'est une loi humaine. Jusqu'à ce que cette femme dise, quand le prophète lui a dit « là, je ne vois pas d'autre solution que le fait que c'est fini, le mariage est fini », cette femme va lui dire quoi ? Va lui dire « eh bien toi, et c'est une dimension très belle du prophète qui nous est offerte ici, elle va lui dire « écoute, de toute façon, toi, tu ne peux rien me faire dans cette histoire, je reviens auprès de Dieu, je m'en remets à Dieu, lui seul me trouvera une solution ». Hop, un chapitre du Coran qui va porter le nom de cette dame, El-Mujadala, est révélé pour dire « Dieu a entendu la dispute qui t'a opposée à cette femme qui est venue demander justement au sujet de son sort ce que tu allais lui proposer. » Et finalement, Dieu a dit « Il suffit que la personne s'acquitte d'une petite chose, en l'occurrence le mari, pour que de nouveau il puisse se mettre avec son épouse. » Là, on voit que c'est un jugement, si je puis dire, social ou sociétal qui avait cours au temps du prophète, que le Coran n'est pas venu faire disparaître, mais qu'il a seulement accompagné vers un sens qui n'en fait pas quelque chose d'absolu.
Oui, mais il y a quand même... vous bottez un peu en touche là, parce que...
pas trop.
Il y a deux difficultés quand même qui se posent. La première difficulté, c'est que finalement, puisque ça a donné lieu à un moment de la révélation coranique, ça veut dire que finalement, l'autorité revient à Dieu.
Oui.
Donc, finalement, c'est Dieu qui dit le juste.
Sauf qu'aujourd'hui, le prophète n'étant plus...
Ah ben, sauf, oui, mais alors là, c'est encore pire, parce que ça veut dire que cette part que vous évoquez du jugement humain,
oui.
Hein, eh bien, n'a plus cours.
Si, elle a cours. Pourquoi elle a cours? Oui, parce qu'avec la mort du prophète, Dieu ne parle plus à personne.
Non, le texte reste, vous savez très bien que pour un très grand nombre de musulmans aujourd'hui, l'autorité majeure n'est pas donnée à l'interprétation personnelle, y compris l'interprétation autorisée qui est élaborée par les fuqaha, mais qu'elle est donnée au texte, c'est-à-dire, encore une fois, à partir, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, à partir des principes coraniques.
Oui, mais le problème,
et là, il y a
une
difficulté qu'on ne peut pas éluder, qui est la très grande difficulté de l'islam, à ne pas chercher le fondement ultime de la légitimité de ce qui est juste dans quelque chose qui transcende la parole humaine et qui est la parole divine. Et ça, en régime de démocratie, il y a quelque chose qui est très difficilement compatible.
Encore une fois, ça dépend de comment, justement, vous l'avez vous-même dit dans votre question, de la façon dont on perçoit ces derniers, dont on perçoit les textes.
C'est une question de culture et de rapport au texte, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Parce que...
Mais en l'occurrence, c'est une question de culture dominante.
Oui, mais...
Votre voix par rapport à ça est très largement... Et on peut se demander si elle est majoritaire ou
alors,
minoritaire.
Alors, détrompez-vous, parce que quand on voit les textes, quand on revient aux grands imams, comme Shafi'i par exemple, et Shafi'i a dit, moi, j'ai pas besoin que... J'ai pas
mais
envie
si on
que
en revient au présent, plutôt qu'à Shafi'i qui vivait, Shafi'i...
Il est mort en 204.
Voilà,
mais justement, à un moment donné, j'appelle justement à ce que nous revenions, à ce que moi j'appelle cet éclectisme qui a été à l'origine de la création de ces sciences religieuses pour que justement nous apprenions à aller à la rencontre des textes. Parce que ce qui s'est passé
Alors, que nous réapprenions.
Ben, bien entendu.
Parce que vous en faites le constat critique dans votre livre, c'est quelque chose qui s'est très largement perdu dans la culture de l'islam, qui aujourd'hui va accorder beaucoup plus, je dirais, de légitimité aux sources.
À des propos d'humains. C'est surtout là où le problème se situe.
Non, mais justement, à des propos d'humains qui ont été sacralisés, qui ont été mythifiés, qui ont été divinisés, hein, et la part du jugement personnel, de l'élaboration personnelle de ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation personnelle, aujourd'hui est quand même singulièrement réduite.
Mais bien entendu, mais c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre.
Voilà.
C'est...
Alors, deuxième raison pour laquelle vous avez écrit ce livre, et là aussi, il me semble que ça pose question, c'est la possibilité de retourner à ce que vous avez appelé l'essence de l'islam.
Oui.
Pas facile, hein ? Pas facile. Parce que là, retourner à l'essence de l'islam, ça suppose quoi ? Ça suppose d'être capable de retrouver quelque chose en deçà de ces sédimentations historiques ? Et comment on fait pour retrouver l'essence de l'islam ?
Vous savez que quand les Lumières sont arrivées, on était dans une Europe, pour ne pas dire dans une France, où une monarchie absolue de droit divin régnait. Et où les gens n'avaient pas l'habitude, entre guillemets, de réfléchir. Les Lumières étaient venues pour justement faire en sorte que le cogito retrouve tout son sens. Et c'est la raison pour laquelle, enfin, je parle au philosophe que vous êtes...
Le cogito, c'était, c'était même avant. Hein,
je parle du cogito de Descartes.
Oui, c'est le XVIIe siècle,
bien
donc c'est
entendu,
un siècle
donc
avant
on n'est pas très très loin. De toute façon, lui, il ne parlait pas de lumière. C'est par la suite que les choses vont se décanter. Au fond... Aujourd'hui, il ne faut surtout pas partir avec l'idée que c'est cuit, qu'il n'y a pas... Moi, je suis quelqu'un de très positif.
Ça, c'est une grande vertu de votre livre. Hein. Vous ne cédez pas au catastrophisme ambiant. Vous dites à un moment, il y a en même temps que tout ce qui a tendance à nous désespérer, de nombreux signes annonciateurs de l'éclosion d'une nouvelle France forte de tous ses enfants.
Exactement.
Avec donc l'idée, qui est quand même nouvelle, mais tout reste à faire, hein, pour ça que vous dites l'an 1, d'une contribution. C'est pas seulement d'une installation.
Ah, d'une contribution.
Une contribution de la culture musulmane, à condition qu'elle sache se retrouver elle-même, on l'a dit, et de ses enfants à la société française, à l'avenir.
Moi, je pense que ce désir existe, pour être honnête avec vous, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui se sentent, qui sont fiers d'être français et qui, vous savez, au risque de vous étonner, j'ai lu dernièrement. Sur la page Facebook de quelqu'un dont on a dit beaucoup de choses pour avoir parlé de la musique. Le sujet a été d'actualité pendant un moment. J'ai lu un petit texte qu'il a fait. Rachid Abou Hudhayfa, l'imam de Brest, qui a écrit que quand on voit les hostilités qui ont lieu dans le monde, eh bien, on doit dire merci à Dieu d'être en France. Et c'est quand même une phrase qui, je pense, est sincère venant de lui, mais venant aussi de beaucoup de personnes. Mais encore faut-il que nous sachions l'interpréter, que nous sachions aussi l'entendre.
Enfin, on doit rester prudent aussi, au sens où on a l'habitude, l'un et l'autre, de voir dans le discours des mêmes personnes se côtoyer allègrement de belles contradictions.
Mais l'humain est par définition quelqu'un de très...
Bien sûr, mais il y a la contradiction, contre laquelle on est impuissant, et puis la contradiction qui n'est pas de très bonne foi.
Hein. Moi, j'ai tendance, c'est pas de la naïveté, mais le musulman par définition est quelqu'un de positif, mutafa'il, comme on dit. Donc j'essaye
Ça, c'est une généralité.
C'est une généralité, mais on doit apprendre à avoir foi en l'avenir et à ne jamais désespérer de...
C'est sûr, et à ne pas partir de préjugés...
Surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essentialise les gens. Donc, pour avoir fait telle chose dans le passé, je vais y être réduit. Et cela, si on raisonne ainsi, ben, plus personne ne parlera à personne, de toute façon. Parce que,
non, bien sûr. Il n'empêche qu'on est tenu aussi de rendre des comptes de ce qu'on a dit, surtout quand on l'a dit publiquement.
Bien entendu, quand on l'a dit publiquement. Mais encore faut-il aussi être capable de reconnaître à la personne la possibilité de changer. Bien quand sûr. Je vous dis que j'ai changé,
c'est clair.
Faites-moi confiance.
Je vous fais confiance.
Oui, pas moi personnellement.
Alors, à propos de cette histoire-là d'essence de l'islam, je pense qu'il y a là vraiment un enjeu décisif, mais un sujet qui est sacrément, ça tombe bien, on parle du sacré, qui est sacrément difficile. Vous dites qu'il s'agit, dans ce que nous a livré la tradition historique de l'islam, de distinguer le variant de l'invariant, les principes... les principes de leur écorce passagère, dépendante des conditions de temps et de lieu, etc. Et voilà par exemple un thème sur lequel il s'agit de faire ce travail. La racine même de l'islam, la racine même du mot islam. Vous dites la chose suivante. Dans toutes les langues sémitiques, la racine SLM, bon, je le dis en français, en arabe c'est une racine trilitaire, donc constituée de trois consonnes, la racine SLM désigne ce qui est en rapport avec la paix, origine dont, en arabe, découle un premier sens. Donc, le mot islam renvoie à la notion de paix. Et tout de suite après, vous dites, islam signifie alors une soumission pacifique à une autorité suprême, dont émanent un certain nombre de valeurs, lesquelles sont à comprendre comme étant envoyées à l'homme pour l'aider à s'élever. Et ensuite, vous insistez bien, vous dites, il faut insister sur pacifique. Mais ce qui est difficile, c'est que moi, là, je vois un glissement dans votre phrase même. C'est-à-dire que vous passez dans la même phrase de la racine qui est en rapport avec la paix à la notion de soumission que vous mettez en premier comme un substantif en faisant passer immédiatement la notion de paix au deuxième plan comme simplement un épithète, puisque vous dites « islam signifie alors soumission pacifique ». Et vous prenez comme appui un passage du Coran dans lequel Abraham dit « Seigneur, je dirige toute ma personne vers celui qui a créé les cieux et la terre ». Et pour vous, il s'agit là, dans cette direction de l'âme des cieux vers la terre, vous y voyez l'idée que le croyant est celui qui se soumet pacifiquement à Dieu. Moi, je suis désolé, j'y vois pas du tout une soumission. J'y vois quelque chose qui est très différent, qui est une consécration de soi. C'est-à-dire que ce que fait Abraham dans sa religion qu'on a appelée la religion hanifienne, la religion primordiale, c'est pas du tout, à mon sens, une soumission à Dieu. Quand il dit « je dirige toute ma personne vers celui qui a créé », c'est pas le mouvement de la soumission de se diriger vers, c'est le mouvement de la consécration et de l'unification de soi. Pense qu'il y a dans ce genre, de glissement sémantique, quelque chose qui montre à quel point, c'est pas une pierre que je vous jette, qui montre à quel point rechercher l'essence de l'islam, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Parce qu'on a une tendance presque compulsive à revenir vers des thèmes qui nous sont extrêmement familiers, en l'occurrence le réflexe pavlovien de dire islam égale soumission, alors que ni dans la racine, ni dans le verset, pour moi, il n'y a l'idée de soumission.
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle soumission. Ce que j'entends par soumission, c'est un peu cette définition de... d'Alexandre Kojève à l'introduction à Hegel, quand il disait par définition que l'homme est conscience de soi, conscient de sa réalité, de sa dignité humaine, et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal qui se laisse dépasser par le niveau du simple sentiment.
Kojève, grand commentateur de Hegel, c'est-à-dire sans lui, hein, c'est très simple, on ne comprendrait rien du tout à la phénoménologie de l'esprit.
Exactement. Alors, lorsqu'il lance cette phrase, c'est à partir de là justement que je vois cette notion de soumission, au sens où j'entends pas par soumission le fait que quelqu'un s'abandonne, etc., mais au contraire, et c'est une dichotomie que l'on retrouve dans tout le Coran, l'opposition entre nafs et, et l'esprit humain, ou si je puis dire.
Par exemple, nafs et ruh.
Et ruh, hein, par exemple.
Ruh,
exactement.
Arabe, voilà.
Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, ce que j'entends par soumission, c'est justement le fait que ruh prenne le dessus sur et nafs, qui est considéré, qui est appelé et défini comme el amar bisou, l'instigatrice du mal. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de
soumission.
Du mal, disons,
la tendance horizontale.
La tendance horizontale, c'est un peu l'équivalent du ça et du moi chez si on veut tirer un peu le corps et l'âme chez Descartes et d'autres philosophes.
Oui, mais dans ce cas-là, certes, on peut dire qu'il y a jusqu'à un certain point une soumission ou une obéissance de la nafs au ruh, chez l'être humain, ce qui est fondamental, c'est la possibilité qui lui est donnée à ce moment-là de suivre le ruh.
Ou de ne pas la suivre.
Oui, mais alors quand il le suit, on voit que le mouvement fondamental n'est pas un mouvement de soumission, puisque le mouvement de soumission est subordonné. C'est le mouvement de l'âme, de soumission de l'âme à l'esprit. Mais il y a au-delà un mouvement directeur qui est indiqué justement le passage d'Abraham. Donc je crois que le terme de soumission, il est à consommer avec modération, parce que même dans le cas de figure que vous évoquez, le fait fondamental, c'est la possibilité pour l'être humain. Voilà, le choix, c'est-à-dire, alors que la soumission implique, il faut quand même le savoir en français, une dimension de passivité, eh bien là, il y a au contraire une dimension d'activité.
Mais, alors, je vais aller dans votre sens, c'est un poète arabe qui disait justement, tu désobéis à Dieu, tout en prétendant l'aimer, c'est une impossibilité claire en termes de comparaison. Si ton amour était véritablement sincère, tu lui aurais obéi. Parce que celui qui aime obéit à celui qui est l'objet de son amour. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Rabi'a, si vous me permettez, va dire cette belle phrase où il dit « Seigneur, je ne t'ai pas adoré pour que tu m'envoies au paradis et que tu m'épargnes l'enfer, je t'ai adoré parce que j'ai su que tu étais un seigneur qui méritait d'être adoré et je t'ai adoré.
Ah oui, mais alors là, attention, parce que vous mobilisez beaucoup de termes.
Oui.
Il y a la notion d'adoration,
oui.
Il y a la notion d'obéissance,
oui.
Il y a la notion d'amour,
oui.
et je suis désolé, mais tout
sauf
ça
la foi
ne
se
fait
définit...
pas, plus, ne fait pas un registre qui serait celui de la soumission.
Ça dépend, parce
c'est
que la foi dans l'islam est définie, Dieu définit la foi comme l'amour en lui,
bien
pas
sûr.
Autre chose. Bah,
mais alors quel rapport entre l'amour et la soumission?
Parce que quand tu aimes quelqu'un...
Ça veut dire que pour vous, l'amour, c'est un phénomène de soumission?
Non, pas du tout, c'est une soumission de choix.
C'est-à-dire que si vous voulez montrer qu'à l'arrivée, la notion de soumission est celle qui commande le rapport de l'homme
ça
à
Ça dépend
Dieu.
Aussi du sens, et là je suis un peu linguiste, parce qu'il y a deux types de sens dans les mots, ce qu'on appelle le sens inhérent et le sens afférent. Le sens que vous allez donner au mot, le sens premier, le sens connoté ou dénoté, appelez-le comme vous voulez, va être en effet celui d'une sorte d'obéissance aveugle et qui surtout implique que la personne, en quelque sorte, reçoit des ordres d'en haut. Alors qu'ici, c'est un choix. Vous faites le choix de vous soumettre et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'Abraham dit « Wajjahdu ». C'est lui qui fait le choix de...
Alors on laissera à nos auditeurs le soin de déterminer par eux-mêmes si le choix de se soumettre est un paradoxe ou une contradiction. Hein. Merci beaucoup, Mohamed Bajrafil, pour cette belle conversation. Je rappelle le titre de votre livre, « Islam de France, l'an 1 ». Il est temps d'entrer dans le 21e siècle. Si vous en êtes d'accord, je vais vous garder encore un petit peu, parce qu'on va écouter ensemble cette musique qui vous est chère, cette musique soufie des Comores. Et quand je dis musique, c'est une méditation soufie.
La ilaha illallah. La
Nous sommes avec la confrérie Chadelia aux Comores. C'est une confrérie qui rend hommage à l'une de ses figures les plus illustres, le cher Ali Amani. Et on prend place ici avec la récitation de la shahada, du témoignage de foi, dans une da'ira, c'est-à-dire une cérémonie confrérique, typiquement soufie, organisée pour commémorer l'existence d'un saint ou d'un membre éminent de la confrérie. Répétition du nom divin, du nom de majesté, un exercice spirituel typique du soufisme que je vais inviter peut-être Mohamed Bajrafil à commenter un peu.
Alors le nom de d'Allah, Dieu, dans le monde soufi a beaucoup de sens, et comme d'ailleurs dans la vie de tout musulman, mais ils ont une façon justement de le vivre, de le dire. Et je me rappelle que jeune, j'ai appris auprès de mon papa, qui était aussi mon maître, une épître entière appelée Risalatul Adhkiya, qui portait sur justement, c'était des vers assez difficiles, qui portait sur les conditions dans lesquelles il fallait être pour pouvoir dire Allah. Alors on t'apprend comment tu dois t'asseoir, d'où ça doit sortir, dans quelle position.
Les conditions, donc pas seulement physiques ou corporelles, mais dispositions intérieures également.
Intérieures et spirituelles. Hein. Donc c'est pour le soufi, ils en sont même venus, je me rappelle aussi qu'il y avait un chant dans la même confrérie qui disait « Alifun qabla alamayni », le alif qui précède deux lames, « Waha'un qurratul ayni », et une sorte d'acronyme, on s'est mis à expliquer « Allah », donc « A » plus « deux oui. lames » plus « un ha » qui font « Allah ».
Le alif qui symbolise toujours l'antériorité de l'acte créateur, le rayon de la lumière existentiatrice.
Exactement. Hein? Donc c'est ce qui fait Allah, et El-Ghazali d'ailleurs disait de manière très belle que c'est le seul nom dont la décomposition donne à chaque fois un sens qui ne peut renvoyer qu'à lui. Il dit, si on enlève le alif, donc cette essence première, eh bien on se retrouve avec l'illah appartient à Dieu. Si on enlève le deuxième lame, on a lahu, lui appartient. Et si on enlève le deuxième lame, on a hu, et c'est le lui absolu.
Hua.
Hua.
Et les soufis répètent souvent hua, hu.
Yahu, yahu, hua, justement. Hu. Ouais.
lui.
Oui, parce que tout lui est relatif à part lui.
Oula, j'espère que tout ça reste compréhensible. Alors, pour terminer, on en a l'habitude dans cette émission, une petite phrase, une petite sucrerie intellectuelle et spirituelle que je livre à nos auditeurs chaque semaine. Cette semaine-là, justement, la phrase, je la prends dans le livre de Mohamed Bajrafil. C'est une phrase de l'imam Shafi, un des quatre grands fondateurs d'écoles juridiques dans l'histoire de l'islam. Ces écoles juridiques ont été fondées très tôt, premier, deuxième, troisième siècle de l'Égypte. Voilà ce que disait l'imam Shafi. J'ai vu que quand l'eau stagne, elle devient mauvaise. Si elle coule, elle devient bonne. Mais si elle ne coule pas, elle s'attire toutes les saletés. Si le lion ne quitte pas la terre où il est né, jamais il ne gagne en férocité. Et si la flèche ne quitte pas l'arc, jamais elle ne peut atteindre sa cible. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des métaphores. Qu'est-ce que c'est qu'une eau qui stagne? Qu'est-ce que c'est qu'une eau qui coule? En quel sens est-ce que les uns et les autres, dans notre vie, tiens, cela peut faire la matière d'un petit exercice spirituel ou d'un petit examen de conscience, en quel sens est-ce que dans notre vie, il y aurait quelque part, ou dans notre âme, quelque part, de l'eau qui stagne et qui menace de croupir? Et à quelles conditions, c'est-à-dire quelle existence mener pour que l'eau en nous-mêmes, et quelle eau, coule ou recommence à couler? Qu'est-ce que c'est qu'une eau qui stagne dans sa propre vie. Eh bien, ce sont par exemple nos plus vieilles certitudes, les plus anciennes, celles dont on a le plus de mal à se débarrasser. Ce que l'on croit acquis, tout ce que l'on croit acquis. Ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on n'ose pas remettre en question. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours pensé ça. Ou parce qu'on considère que c'est trop sacré pour qu'on le remette en cause. Et puis, cette eau qui snague, ce peut être aussi, sur le plan du comportement ou des conduites, ce qu'on appelle les habitudes. Alors, il y a des bonnes habitudes qui sont des disciplines, hein, des choses qu'on a fait l'effort de faire régulièrement et qui nous maintiennent en tension, qui maintiennent notre vitalité également. Et puis il y a les mauvaises habitudes, c'est-à-dire ce dans quoi, au contraire, on s'est englué, on s'est enferré. Hein. Et puis il y a enfin un autre type d'eau qui stagne, une autre mare qui menace de croupir dans notre intériorité. C'est ce qu'on pourrait appeler, c'est plus subtil, l'état de conscience ordinaire. L'état de conscience ordinaire, c'est-à-dire que, eh bien, on a toujours eu, aussi loin qu'on se rappelle, aussi loin que notre mémoire nous le dise, on a toujours eu ou on a toujours été dans cet état de conscience, avec cet état de conscience. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ce phénomène qui pourrait permettre à l'eau de recommencer à couler, on n'a pas connu depuis longtemps ce phénomène de la prise de conscience. Hein, parce que dans l'idée de prise de conscience, il y a l'idée de quelque chose qui se remet à couler, c'est-à-dire de quelque chose qui recommence à être vivant, hein, de quelque chose qui recommence d'ailleurs, tout court. Dans la prise de conscience, il y a un phénomène de surgissement, il y a un phénomène de nouveauté, il y a un phénomène de source et de ressourcement pour soi. Voilà la petite méditation du jour. J'ai surtout insisté sur le fait que, eh bien, il y a en nous à débusquer l'eau qui stagne et à chercher, je le livre donc à la méditation de chacun, l'eau qui coule, avec peut-être pour terminer le rappel de la dernière partie de cette belle phrase de l'imam Shafi qui dit « Si la flèche ne quitte pas l'arc, jamais elle ne peut atteindre sa cible. » Et là on ne parle plus de la source, on parle de la cible. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire là encore dans nos vies que de laisser, que d'accepter, parce que de toute façon elle le fait, elle ne nous demande pas notre avis. Qu'est-ce que c'est que d'accepter que la flèche quitte l'arc, hein ? Qu'est-ce que c'est que d'accepter que notre existence nous dirige toujours vers le futur, nous éloigne sans cesse du passé ? Ce qui, évidemment, donne à la nostalgie de l'origine la valeur d'un regret éternel, parce que jamais nous ne pourrons retrouver le lieu de cette origine, ou en tout cas, nous ne retrouverons pas ce lieu de l'origine du côté du passé. Allahu Allah. Dans Culture d'Islam aujourd'hui, nous avons reçu Mohamed Bajrafil pour Islam de France l'an 1. Il est temps d'entrer dans le 21e siècle, c'est aux éditions Plein Jour. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site de France Culture, franceculture.fr. Je remercie vivement et chaleureusement l'attaché de production de cette émission, Dominique Compétissa. À la prise de son également, je remercie Valérie Lavalard et à la réalisation Franck Lilin. Dans quelques instants, vous retrouverez Louise Touré et Rue des Écoles.